Un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Des cortèges moins fournis, mais des manifestants toujours très remontés. Nous reviendrons sur cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Reportage à Paris d'Anne-Laure Chouin, analyse d'Anne-Laure Jumet, aperçu des questions au gouvernement avec Pierre Neveu. Et chez les policiers, le mouvement pourrait se durcir. Demain, l'intersyndicale Alliance UNSA Police et SGP Police appellent les CRS à se reposer demain. Abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès, ce sont les deux chefs d'accusation retenus par les démocrates contre Donald Trump. Dans la procédure de destitution visant le président américain. Nous irons aux États-Unis. Et puis plusieurs proches d'Abdelaziz Bouteflika, lourdement condamnés en Algérie, ils ont été jugés coupables de corruption. Nous joindrons Leïla Berato à Alger. À la veille des annonces gouvernementales, les opposants à la réforme des retraites n'ont pas réitéré la démonstration de force du 5 décembre. Les syndicats annoncent 180 000 manifestants à Paris contre 250 000 jeudi dernier. Mais il y avait tout de même des manifestations organisées un peu partout en France, à Marseille, à Rennes, à Limoges. Au total, selon la CGT, 885 000 personnes étaient dans les rues et de nombreuses professions étaient représentées dans les cortèges. C'était notamment le cas à Paris, Anne-Laure Chouin.
Des rangs plus clairsemés, mais une ambiance plus festive et toujours autant de secteurs représentés. Signe que la réforme des retraites est une inquiétude pour beaucoup et que les manifestants ont des griefs plus larges aussi. Stéphanie, artiste photographe.
Je ne gagne pas ma vie correctement avec mon métier et je vais la gagner encore moins correctement puisque les charges ne cessent d'augmenter. Puisqu'on parle de la fin des régimes spéciaux, mais que le gouvernement et les politiques commencent par eux-mêmes, c'est-à-dire les ministres qui ont des avantages et leurs privilèges à vie, même si ça a un peu baissé, d'accord, les sénateurs, les députés, qui commencent par eux pour donner, au lieu de toujours s'attaquer aux plus petits. Si ça implique un nivellement par le bas pour tous, non, c'est non.
C'est non pour Luc également, chercheur en physique et critique d'un système de recherche français qui se précarise, selon lui, depuis des années. Il se dit extrêmement méfiant envers une réforme des retraites beaucoup trop floue à son goût.
Moi je suis là parce que je suis un scientifique et quand on m'expose un problème et sa solution, j'aime bien qu'on le fasse clairement. C'est pire que flou, c'est trompeur. Par exemple, le fait qu'on parle de retraite universelle et qu'en fait on écarte de cette retraite une frange de la population, comme les cadres, parce qu'on veut donner aux fonds de pension et aux assurances une partie des retraites.
Unifier par le bas et laisser la retraite des plus riches aux bons soins des fonds de pension, c'est aussi ce que craignent les postiers. Dans leur entreprise, le climat se détériore depuis des années, souvent en silence. Et pour Gaël, venu avec son habit de fonction, postier, gilet jaune ou cheminot, c'est le même combat.
Si vous allez dans les piquets, le matin à la RATP, dans les assemblées générales qui se tiennent, bien évidemment que ce qui unifie, c'est le fait de dire retraite, ni amendable, ni négociable. Mais en réalité, ce que porte les salariés et la jeunesse, c'est bien plus large. Est-ce qu'on va être dirigé par une petite minorité de Total, Bettencourt et Arnaud? La question, c'est pas de savoir est-ce que c'est je dois avoir travaillé avant la préhistoire pour être au même niveau. C'est que cet argent, c'est pas normal qu'aujourd'hui, ceux qui font tourner cette société ne l'aient pas.
Un discours appuyé par les étudiants et les lycéens, venus nombreux également. La manifestation s'est terminée sans incident violent.
Et je vous donne les chiffres de la mobilisation que vient de publier le ministère de l'Intérieur. 339 000 manifestants en France, dont 31 000 à Paris. Les transports publics sont encore très perturbés, notamment en région parisienne. Et la poursuite de la grève a été votée jusqu'à demain soir, parfois même jusqu'à vendredi. Demain, la SNCF prévoit un TGV sur 4 en circulation et un Transilien sur 5 et recommande aux voyageurs qui le peuvent de reporter leur déplacement. À la RATP, 10 lignes de métro resteront fermées. Aujourd'hui, Air France et EasyJet ont dû réduire à nouveau leur programme de vol. 7 des 8 raffineries françaises sont bloquées. Dans les écoles et les crèches, l'accueil des enfants était perturbé. Selon le ministère de l'Éducation, il y avait 12,4% de grévistes dans le primaire, 19,4% dans le secondaire. Les syndicats, eux, ont compté 30% de grévistes dans le primaire et 62% dans le secondaire. Le gouvernement promet des hausses de primes, mais les enseignants n'y croient pas. Ils demandent des hausses de salaire déconnectées de la réforme. Hakim Kassem a joint Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES FSU. Tendez l'oreille car la qualité du téléphone n'est vraiment pas très bonne.
Nous ne souhaitons pas forcément beaucoup plus de primes, on souhaite une revalorisation. Là, en plus, ce que propose le ministre, ce sont des primes qui ne toucheraient pas tout le monde, qui seraient conditionnées. Il a d'ailleurs parlé aussi de contrepartie en termes de temps de travail. La mobilité, on ne peut pas obliger les gens à la mobilité. Le problème de la mobilité, maintenant, c'est le nombre de postes qui est réduit. À partir du moment où on supprime des postes, on rend plus compliqué aussi le mouvement des enseignants et le fait qu'ils puissent obtenir l'académie, le département, l'établissement de leur choix. De même, le ministre essaie de développer des primes à l'orientation, alors que nous avons des personnels dans le second degré qui sont des conseillers d'orientation psychologues de l'éducation, qui peuvent très bien, qui ont fait le métier hein, d'orienter les élèves. Donc là, on est sur un détournement donc des missions. Donc nous pensons que les annonces demain, d'abord, sont très insuffisantes en termes budgétaires et ne correspondent pas à la demande des enseignants, qui est d'avoir une revalorisation globale et de garder un système de retraite dont le montant soit calculé sur les 6 derniers mois.
Frédéric Rollet du SNES FSU, l'intersyndicale, se réunit en ce moment pour tirer les leçons de cette journée de mobilisation et pour préciser sa stratégie. Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
Les syndicats restent déterminés à prolonger le mouvement.
Oui, malgré une mobilisation en recul par rapport à la journée du 5 décembre, vous le disiez, une participation divisée par deux à Paris et puis dans d'autres grandes villes comme Toulouse, Marseille, Lyon, Bordeaux ou encore Nantes. La CGT l'avait dit avant même cette journée, elle n'a pas pu affréter autant de bus que le 5 décembre. Pour aller manifester, notamment dans la capitale. Elle espérait se rattraper avec des manifestations de proximité en grande couronne parisienne et dans des villes qui n'avaient pas mobilisé jeudi dernier. Paris donc raté ce soir, mais son secrétaire général Philippe Martinez y voit une explication.
Vous le savez, la grève ça coûte. C'est pas une journée charnière. Je comprends que, vu comment c'est monté comme une journée clé demain, il y a aussi des salariés qui se disent, peut-être qu'il nous a compris, on va attendre de voir ce qu'il dit avant de retourner dans la rue. Je pense aux enseignants, par exemple, qui sont quand même très largement mobilisés encore. Donc oui, il y a aussi une certaine attente des annonces de demain.
Mais avant même ces annonces du Premier ministre, l'intersyndicale va donc arrêter ce soir les modes d'action pour les prochains jours, avec probablement l'annonce d'une nouvelle journée de mobilisation ce jeudi. Car l'objectif, c'est bien de définir des journées rapprochées pour maintenir la pression et permettre aussi au secteur privé de se mobiliser à intervalles réguliers. Le bras de fer est donc loin d'être terminé. Il pourrait durer au moins jusqu'à Noël.
Anne-Laure Jumet, et les policiers exaspérés durcissent le ton, eux aussi, voire leur régime de retraite menacé. Ils risquent de perdre le calcul des pensions sur les 6 derniers mois, ainsi qu'une bonification spéciale. Alors l'intersyndicale, Alliance, UNSA Police et SGP Police annoncent un basculement de la mobilisation demain. Écoutez Yves Lefebvre, il est secrétaire général d'unité SGP Police Force Ouvrière.
Demain, ça devrait être le coup d'arrêt, ouais, effectivement. Parce que depuis plus d'une semaine, nous avons décliné plusieurs formes d'action. La première d'entre elles, déjà, avec le minimum d'activité pour les effectifs affectés durant la période de nuit, mais également pour tous les effectifs affectés aux unités de jour. Donc c'est sorti uniquement sur appel. À ça viennent s'ajouter, je dirais, l'encadrement des manifestations. Par contre, demain matin, enfin dès ce soir pour les effectifs de nuit et dès demain matin 6h, on est reparti dans un format intersyndical et pour des actions ponctuelles à 12h, Édouard Philippe prononcera son allocution pour présenter la réforme des retraites dite de Levoix. On organise un rassemblement à partir d'11h, 11h30 pour être présent sur les lieux quand Édouard Philippe arrivera et au moment où il va s'exprimer aux Français. Pendant ce temps-là, on va certainement, dans les compagnies républicaines de sécurité, appeler nos collègues à se reposer. On comprendra qui pourra, mais les CRS sont au bout du rouleau. Demain, ils devront se reposer obligatoirement. On attend des signes, on attend des réponses, on attend des propositions de négociation. Quand on a une police nationale qui marche plus qu'au ralenti depuis 10 jours et qu'in fine, on a un ministre de l'Intérieur qui est sourd des malentendants des deux oreilles, ça commence à devenir franchement inquiétant. Le dialogue social est en train de foutre le camp. Le respect des corps intermédiaires est en train d'être piétiné et ça, c'est profondément inacceptable.
Yves Lefebvre répondait à Céline Autin. Édouard Philippe doit donc annoncer demain, à la mi-journée, l'architecture de la réforme et le soir, un dîner de calage est prévu avec des ministres et des cadres de la majorité. Le Premier ministre a rencontré ce matin le groupe La République En Marche à l'Assemblée pour évoquer le sujet avant de se rendre à la séance des questions d'actualité au gouvernement. Sans surprise, Édouard Philippe a été soumis à un feu nourri de questions à l'Assemblée, ce qui a donné lieu à quelques passes d'armes, Pierre Neveu.
Oui, c'est parce que le débat s'est déplacé dans la rue ces derniers jours, loin de l'hémicycle. Les députés se sont emparés de la question de la réforme des retraites cet après-midi. La France insoumise, ciblant ses critiques sur Jean-Paul Delevoye, le monsieur retraite du gouvernement, accusé de conflit d'intérêts pour avoir été administrateur bénévole d'un institut de formation dans les assurances, d'où la charge sans appel du député du Nord, Adrien Quatennens.
Monsieur le Premier ministre, vous êtes démasqué. Qui peut croire que vous soyez soucieux d'universalité? Vous voulez faire avaler au pays une réforme au service des assureurs, des banques et des fonds de pension, qui ont d'ailleurs été reçus en grande pompe à l'Élysée par Monsieur Macron et par le haut commissaire aux retraites.
Et si la France insoumise demande le retrait de la réforme, Christian Jacob pour Les Républicains dénonce quant à lui la méthode et l'architecture du projet porté par le Premier ministre.
Votre méthode de concertation, monsieur le Premier ministre, a été, reconnaissez-le, un fiasco total. Car non seulement votre projet est de plus en plus illisible, mais il est de plus en plus anxiogène. Les Français ne veulent pas d'un système par points qui fera un nombre considérable de perdants et de sacrifiés.
Alors la réforme se fera par un allongement progressif de la durée du temps de travail, martèle Édouard Philippe. Il détaillera demain l'ensemble des mesures devant le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Et c'est le choix de cette assemblée consultative qui fait l'objet des critiques du groupe LR à l'Assemblée.
J'aurai l'occasion de répondre point par point au CESE. Pourquoi ? Parce que le CESE représente les organisations syndicales et patronales. Parce que le CESE a été créé en 1958 par le général de Gaulle et parce que c'est sa fonction d'être la chambre du dialogue social. Je vous remercie.
Et devant les députés LREM ce matin, le Premier ministre a déjà prévenu qu'il ne fera pas d'annonce magique demain midi. En tous les cas, pas d'annonce qui puisse faire cesser les manifestations.
Pierre Neveu, et lors de cette séance des questions au gouvernement, le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, a tout de même apporté une précision. Le gouvernement garantit, dit-il, que la valeur du point dans le futur système universel de retraite sera indexé sur les salaires. On se dirige vers une réouverture partielle de l'usine chimique de Lubrizol à Rouen. Le comité départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques a émis un avis positif à ce projet de réouverture partielle de l'usine. Elle est fermée depuis le spectaculaire incendie du 26 septembre. Le préfet de Seine-Maritime a indiqué qu'il suivrait cet avis, Véronique Reberotte.
Oui, la direction régionale de l'environnement, la DREAL, avait déjà donné son feu vert à cette réouverture. La préfecture, lui, emboîte donc le pas. La réouverture ne serait que partielle, elle ne concernerait que le secteur de l'usine qui n'a pas été touché par l'incendie. Il s'agit des unités où sont mélangés les produits. Derrière cette réouverture, on imagine bien, eh bien l'enjeu économique qui a prévalu. Hein. Lubrizol à Rouen, c'est 400 emplois. Il faut ajouter les entreprises sous-traitantes qui travaillent en lien avec Lubrizol. On parle alors de 2000 emplois concernés. Au sein du comité départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, qui a pris donc cette décision de réouverture partielle de Lubrizol, 20 personnes se sont prononcées pour, 4 contre, ou se sont abstenues. Large majorité donc pour une reprise de l'activité, malgré l'inquiétude exprimée par les élus et les riverains de l'usine à Rouen. Beaucoup d'élus qui s'opposaient d'ailleurs à cette réouverture étaient présents à la réunion de cet après-midi, mais sans pouvoir voter. Alors pourquoi sont-ils inquiets à l'idée de cette réouverture, même partielle? On ne connaît bien toujours pas d'où est parti précisément l'incendie. Ses causes, il reste aussi sur place plus de 1000 fûts endommagés, difficiles à évacuer, manipulés pour cela par des robots. Ces barils toxiques, dangereux, risquent encore d'émettre de l'hydrogène sulfuré, un gaz potentiellement mortel. L'entreprise espère pouvoir avoir terminé leur évacuation avant la fin de l'année. D'autres sources évoquent plutôt des délais plus longs, février voire avril, donc pour évacuer ces fûts toxiques. Bref, une réouverture, même partielle, ne veut pas dire immédiate ou même à court terme.
Véronique Reberotte.
Les démocrates ont finalement retenu ces deux chefs d'accusation à l'encontre de Donald Trump.
Oui, c'était Grégory Phillips, notre correspondant aux États-Unis, qu'on va entendre tout de suite. Je vais d'abord quand même annoncer ce sujet. Aux États-Unis, donc, les élus démocrates viennent de publier l'acte de mise en accusation de Donald Trump, ce qui fait de lui le troisième président de l'histoire des États-Unis à être confronté à une procédure de destitution. Les démocrates ont retenu deux charges contre le président américain, abus de pouvoir et obstruction des travaux du Congrès. Précision donc à Washington de notre correspondant Grégory Phillips.
Les démocrates ont finalement retenu ces deux chefs d'accusation à l'encontre de Donald Trump. Abus de pouvoir et obstruction au travail du Congrès. Au cœur du problème, il y a ce coup de téléphone le 25 juillet dernier entre le locataire de la Maison Blanche et le président ukrainien Zelensky, durant lequel Trump a conditionné l'octroi d'une aide militaire américaine à l'obtention d'informations sur son rival politique Joe Biden. Ça, c'est l'abus de pouvoir. L'obstruction, c'est le fait que la Maison Blanche a refusé depuis 2 mois de coopérer avec cette enquête parlementaire. La semaine prochaine, la Chambre des représentants va donc, selon toute probabilité, voter l'impeachment de Trump. Puis en janvier, il y aura un procès en destitution au Sénat. Ça n'est arrivé que deux fois dans l'histoire des États-Unis, Bill Clinton en 1998 et Andrew Johnson au 19e siècle. Mais il n'y a quasiment aucun risque que Trump soit destitué par un Sénat majoritairement républicain. D'ailleurs, la porte-parole de la Maison-Blanche pronostique que le président sortira totalement blanchi de ses fausses accusations. Et Trump, qui n'a de cesse de dénoncer une chasse aux sorcières, parle désormais, pour évoquer cette procédure lancée par les démocrates, de pure folie politique.
L'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada devrait être signé dans la journée à Mexico, c'est ce qu'affirme le président mexicain Andrés Manuel López Obrador. Une première version de cet accord qui modernise le traité de l'ALENA avait été signée par les trois pays fin novembre 2018, mais depuis, seul le Parlement mexicain l'avait ratifié. Cette nouvelle version, elle, a été validée aujourd'hui par le principal syndicat américain et par les démocrates. Verdict inédit en Algérie à deux jours de l'élection présidentielle. Deux anciens premiers ministres, d'Abdelaziz Bouteflika et d'autres hauts responsables, ont été jugés coupables de malversation et condamnés à de lourdes peines de prison ferme. À Alger, la correspondance de Leïla Berato.
15 ans de prison ferme pour Ahmedou Yahia, l'ancien premier ministre, et 12 ans pour Abdelmalek Sellal, son prédécesseur. C'est ce que le tribunal a annoncé ce matin dans cette affaire de malversation dans le secteur industriel du montage automobile et de financement occulte de la campagne électorale du 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. La peine la plus lourde, 20 ans de réclusion, est pour Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre qui est en fuite à l'étranger et qui n'était pas présent au procès. Deux anciens ministres de l'industrie sont condamnés à 10 ans de prison et deux hommes d'affaires, dont Ali Haddad, l'ancien patron des patrons, devront eux faire 7 ans de réclusion. C'est le deuxième procès important qui se tient depuis le départ d'Abdelaziz Bouteflika. Au mois de septembre, c'est le frère de l'ancien président et les deux anciens tout-puissants chefs du service de renseignement qui avaient été condamnés à 15 ans de prison ferme pour atteinte à l'autorité de l'État. Pendant 3 jours, le tribunal d'Alger avait interrogé les prévenus sur les avantages qu'ils avaient accordés ou dont ils avaient bénéficié dans l'industrie de montage automobile. Selon le procureur, ces malversations ont coûté l'équivalent d'1 milliard d'euros. Au trésor public.
Et la contestation populaire ne donne aucun signe d'essoufflement en Algérie. Comme chaque mardi, plusieurs milliers d'étudiants ont encore manifesté à Alger pour protester contre l'élection présidentielle organisée après-demain. Après avoir obtenu en avril la démission d'Abdelaziz Bouteflika, président depuis 20 ans, les opposants réclament des institutions de transition pour réformer le régime. Ils refusent que l'actuel pouvoir organise un scrutin pour élire un successeur à Bouteflika, estimant qu'il veut ainsi se régénérer. En marge de la COP25 de Madrid, la conférence de l'ONU sur le climat, la France et 9 États brésiliens ont décidé de créer un partenariat pour la préservation de la forêt amazonienne. Une façon de court-circuiter le président climato-sceptique Jair Bolsonaro, Christian Cheneau.
C'est peu dire que les relations sont exécrables entre Emmanuel Macron et son homologue brésilien. Au cœur de leur inimitié, il y a l'Amazonie. Pour Jair Bolsonaro, cette forêt gigantesque n'est pas menacée et sa gestion est d'abord et avant tout un enjeu de souveraineté nationale. Mais les feux se sont multipliés dans cet écosystème unique considéré comme le poumon vert de la planète. Pays amazonien, grâce à la Guyane, la France a décidé d'être moteur sur ce dossier clé du réchauffement climatique. En marge de la dernière Assemblée générale de l'ONU en septembre, Emmanuel Macron avait co-présidé le lancement de l'Alliance pour les forêts tropicales. Une initiative boycottée alors par le Brésil au niveau fédéral, mais pas au niveau local des États brésiliens. À la COP25 de Madrid, 9 d'entre eux ont décidé de participer au partenariat initié par la France pour sauver l'Amazonie, un moyen de court-circuiter le président climato-sceptique Jair Bolsonaro.
Christian Cheneau, une épaisse fumée toxique recouvre Sydney. C'est la conséquence des feux de forêt qui se sont déclenchés il y a plusieurs semaines dans l'est de l'Australie. Depuis le mois de septembre, environ 2 millions d'hectares sont partis en fumée. C'est l'équivalent de la moitié de la superficie de la Suisse. Et les habitants de Sydney, la ville la plus peuplée d'Australie, suffoquent. Écoutez le témoignage d'une jeune Française de 26 ans, jointe par Valérie Crova. Elle s'appelle Eva Dumont.
Aujourd'hui, je pense que c'était la pire journée en termes de fumée dans l'air. Moi, j'habitais à Bondi, j'habitais à la plage et clairement, on n'y voyait rien du tout, quoi. On ne voyait absolument rien. Il y avait énormément de personnes qui portaient des masques et il y avait des gens qui ont eu quand même des petites crises de panique, quoi. Je voyais certaines personnes qui commençaient à courir, qui commençaient à s'inquiéter. Donc, par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai pas pu travailler. Mon patron m'a dit de ne pas aller travailler à cause de cette fumée. Moi, je distribue des flyers à Sydney. J'ai parlé à une infirmière qui m'a dit qu'elle n'était pas du tout rassurée vis-à-vis de l'air, quoi, et qu'elle préférait quitter la ville. parce que étant infirmière, pour elle, c'est une fumée comme celle-là n'est pas respirable et elle est énormément toxique pour l'être humain, quoi. Donc on sent que l'air est pas sain, quoi.
Les principaux greniers à blé mondiaux sont menacés selon deux études publiées dans la revue Nature Climate Change. Le changement climatique pourrait entraîner de mauvaises récoltes simultanées dans les principales régions de production mondiale. Le soja notamment supporte mal les températures supérieures à 30 degrés. Les chocs climatiques subis par la production agricole contribuent au pic de prix et à la famine et pourrait, selon l'auteur principal de l'une de ces études, déclencher d'autres risques systémiques comme des troubles politiques ou des migrations. Temps perturbé en France demain mercredi, il pleuvra du sud-ouest au nord-est le matin, puis sur l'est l'après-midi. Près de la Manche et de l'Atlantique, les averses orageuses seront accompagnées de rafales de vent. Ciel chargé également sur le pourtour méditerranéen, mais les pluies seront rares. Du soleil tout de même sur la Corse. Les températures minimales seront comprises entre moins 2 degrés et plus 9. L'après-midi, il fera 4 à 13 degrés, jusqu'à 15 sur la Côte d'Azur. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.